VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du mercredi 27 avril 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Mamadou Oumfa.
Pour commencer les titres.
Au Mali, la justice militaire enquête sur un charnier présumé à Gossi, tandis que la junte au pouvoir accuse l'armée française d'espionnage et de subversion.
En République démocratique du Congo, le gouvernement suspend 12 contrats forestiers illégaux.
Au Rwanda, Dieudonné Ishimwe, organisateur des Miss Rwanda, a été arrêté pour agression sexuelle.
En Éthiopie, les rebelles du Tigré disent s'être retirés des zones qu'ils occupaient depuis 9 mois dans l'Afar.
L'Afrique du Sud est entrée dans une nouvelle vague de pandémie de Covid-19, a averti mardi le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies.
Les États-Unis se disent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, la justice militaire annonce l'ouverture d'une enquête après la découverte d'un charnier à Gossi dans le centre du pays, non loin d'une ex-base de l'armée française. Paris accuse des mercenaires russes d'y avoir enterré des corps afin d'accuser ses soldats. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cette enquête a été ouverte par le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako sur instruction du ministère de la Défense, indique un communiqué du parquet. Le texte renseigne que le procureur s'est rendu à Gossi le 23 avril, accompagné de plusieurs enquêteurs pour faire toute la lumière sur ces faits, promettant que l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête. La justice militaire malienne promet aussi que les résultats de ces enquêtes seront rendus publics. Le 21 avril, deux jours après avoir restitué aux forces armées maliennes sa base de Gossi et en réponse à une vidéo qui circulait sur Twitter, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle qualifie d'attaque informationnelle et publié une vidéo de ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de cette base. Au lendemain de la publication de ces images, l'état-major malien a annoncé avoir découvert un charnier, précisant que l'état de putréfaction avancée de ces corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession.
La junte au pouvoir à Bamako a aussi réagi à la diffusion de ces vidéos tournées par un drone en accusant hier soir l'armée française d'espionnage et de subversion en publiant, je cite, « de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir leur image ». Fin de citation.
En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont dispersé mardi à coups de gaz lacrymogène des étudiants en grève depuis lundi sur le campus de Bouaké dans des heurts qui ont fait plusieurs blessés. Selon l'AFP, les étudiants réclament de meilleures conditions d'études et notamment la possibilité de passer leurs examens ailleurs qu'à Abidjan, la principale ville du pays située à plus de 300 kilomètres.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a suspendu 12 contrats forestiers épinglés par l'Inspection générale des finances et des organisations de protection des forêts, des contrats qui auraient été octroyés en violation du moratoire en vigueur depuis 2002, Eddie Sango.
La suspension de ces 12 contrats est tombée 6 mois après que le président Félix Tshisekedi a déclaré avoir été saisi de plusieurs plaintes d'irrégularité dans l'octroi des concessions forestières et ordonné la suspension de tout contrat douteux. Ces contrats sont suspendus par une décision du 5 avril et concernent des concessions forestières d'exploitation et de conservation dans les provinces de Tshopo, Mongala, Maïndombe et Équateur pour une superficie de près de 2000 hectares. Les contrats sont suspendus à titre conservatoire, a décidé Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement. Ils ont été conclus avec 4 ministres qui s'étaient succédés au ministère de l'Environnement depuis 2014 et des sociétés des droits congolais, certaines à capitaux étrangers, notamment chinois. Greenpeace et des organisations locales de protection des forêts dénoncent les manques de transparence et l'impunité du gouvernement. Elles jugent insignifiants les nombres de contrats suspendus. Elles veulent plus de lumière sur les contrats signés avec des tiers afin de bénéficier d'un financement de 500 millions de dollars dans les cadres de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale. La ministre a mis sur pied une commission chargée de revisiter tous les contrats.
Toujours en RDC, l'ONG Global Witness accuse un programme censé de contrôler l'origine responsable de métaux extraits de ce pays de contribuer au contraire au blanchiment de minerais liés à des conflits, au travail des enfants ou issus de trafic ou de contrebande. Il s'agit du programme appelé Initiative de la chaîne d'approvisionnement de l'étain qui rejette de telles conclusions.
Pour s'approvisionner en étain, tantale et tungstène, les métaux dits 3T, très utilisés dans les équipements électroniques, de grandes entreprises comme Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla s'appuient sur ce mécanisme défaillant, déplore l'ONG britannique dans un rapport publié ce mercredi.
Global Witness rappelle que l'armée congolaise et les groupes armés rivaux se disputent le pouvoir dans certaines régions de l'est de la RDC et voient depuis des décennies le commerce de minerais comme une source vitale de revenus.
Au Rwanda, arrestation pour crime d'agression sexuelle présumée de Dieudonné Ishimwe, plus connu sous le nom de Prince Kid. Un célèbre ex-musicien organisateur de concours de beauté au Rwanda. Selon un porte-parole du bureau d'enquête rwandais, l'homme de 36 ans est soupçonné d'agression sur d'anciennes participantes à Miss Rwanda à plusieurs reprises.
En Éthiopie, les rebelles de la région du Tigré ont affirmé mardi s'être retirés des zones qu'ils occupaient depuis 9 mois dans celles voisines de l'Afar. Ce retrait était l'une des conditions posées par le gouvernement éthiopien à une trêve annoncée en mars. Ni le gouvernement fédéral ni les autorités régionales de l'Afar n'ont confirmé ou démenti dans l'immédiat ce retrait du TPLF.
Une conférence de donateurs organisée à Genève a permis d'obtenir mardi 1,39 milliard de dollars pour aider la Corne de l'Afrique à lutter contre la famine qui menace cette année au moins 20 millions de personnes selon l'ONU.
L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par le Covid-19, est entré dans une nouvelle vague de pandémie, a averti mardi le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies. Ce pays connaissait ces derniers mois une accalmie, mais le nombre de nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures est encore en hausse par rapport aux derniers jours, avec 5062 cas, 15 décès et 83 hospitalisations selon l'Institut national des maladies transmissibles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis sont prêts à remuer ciel et terre afin de faire gagner l'Ukraine, a assuré mardi le chef du Pentagone, Lloyd Austin, lors d'une réunion avec ses homologues alliés en Allemagne. Pour le président ukrainien, la victoire n'est qu'une question de temps, mais le moral de ses troupes se dégrade et les forces russes continuent à grignoter du terrain dans l'Est, Jean-Roger Bion.
Plusieurs localités comme Izium et Kremina sont tombées ces deux dernières semaines et l'armée russe progresse toujours poche par poche. À Mariupol, presque entièrement contrôlée par les Russes, mais où sont toujours coincés quelques 100 000 civils d'après Kiev, la situation est toujours bloquée. Les forces russes continuent d'épilonner le vaste complexe métallurgique Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens avec, selon eux, près de 1 000 civils, a déclaré mardi le gouverneur Kirilenko. Rien qu'à Mariupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20 000 morts en raison des combats, mais aussi de l'absence de nourriture, d'eau et d'électricité. La Russie s'est dite prête à coopérer avec les Nations Unies pour soulager les populations civiles en Ukraine, a assuré mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov au cours d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Moscou. Quelques 8,3 millions de personnes pourraient avoir fui cette année l'Ukraine, a souligné mardi l'ONU.
Les forces russes bombardent ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, a indiqué mardi un conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur après la destruction d'une voie stratégique reliant le pays à la Roumanie.
La Moldavie a annoncé des mesures pour renforcer sa sécurité après une série d'explosions dans la région séparatiste de Transdniestrie, appuyée par Moscou qui fait craindre un débordement du conflit actuel en Ukraine.
En Chine, dépistage étendu à la quasi-totalité des 22 millions d'habitants de Pékin, annulation des cérémonies de mariage et de spectacles, fermeture de gymnases, la ville a vécu mardi dans la crainte d'un confinement général comme à Shanghai.
Un Palestinien a été tué ce matin par les forces israéliennes en marge d'une opération dans le secteur de Jenin, bastion des factions armées palestiniennes en Cisjordanie occupée, a indiqué l'agence officielle palestinienne Wafa, citant des sources hospitalières. Contacté par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué mener mercredi des activités de contre-terrorisme à Jenin.
Par ailleurs, 4 soldats syriens ont été tués, 3 autres blessés et les dégâts matériels constatés lors d'une frappe israélienne nocturne près de Damas, a indiqué mercredi une source militaire à l'agence de presse officielle Sana.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra demain en Arabie Saoudite pour la première fois depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul. Le président Erdogan est en quête de soutien pour faire face à la grave crise financière qui secoue son pays. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Côte d'Ivoire devrait connaître une croissance de 6% cette année selon le FMI. Cette prévision est basée sur des réformes solides, la découverte de nouvelles réserves de pétrole et de gaz, mais aussi des ressources fiscales et douanières, précise l'agence Ecofin. Plus de 1,17 milliard de dollars ont pu être collectés par les impôts comme recettes brutes, soit 3% de plus que les prévisions. Saïna, la start-up franco-malgache, vient de lever 600 000 dollars pour financer son développement. Saïna espère finaliser ainsi son jeu vidéo d'apprentissage des métiers du numérique qui connecte automatiquement ses apprenants à des micro-tâches IT rémunératrices. Saïna veut compter plus de 3 000 micro-taskers actifs, 12 000 apprenants sur son jeu mobile d'ici à 2024, avec plus de 257 000 micro-tâches IT commercialisées. L'Afrique n'a obtenu que 405 millions de dollars de financement vert en 2021, alors qu'elle est l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique. Les gouvernements africains ont dû se concentrer à mobiliser des fonds pour lutter contre la pandémie du coronavirus, analyse Climate Bonds Initiative.
Merci Claire. À présent, les sports avec Nanit Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les footballeurs congolais du TP Mazembe recevront une prime de 9 500 euros, soit 20 380 956 francs congolais en cas de qualification pour la finale de la Coupe de Confédération africaine, promet le président du club Moïse Katumbi. L'équipe basée à Lubumbashi, dans le Katanga, dispute une demi-finale de la Coupe de la Confédération contre le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane, entraîné par le Congolais Florent Ibengue, ancien sélectionneur des Léopards de la RDC. Le match aller sera joué le 8 mai à Lubumbashi et le match retour à Berkane au Maroc une semaine plus tard. Au Burkina Faso, l'ancien attaquant des étalons, Aristide Bansé, est assigné en justice, poursuivi par des membres de la Fédération burkinabé de football pour diffamation. Il aurait tenu des propos à caractère diffamatoire à l'encontre des anciens dirigeants de cette institution. Dans un direct sur Facebook, le 2 avril, l'ancien international les a accusés de faire preuve des retenues sur les salaires des membres du staff technique et reverser ce surplus sur leur compte. Aristide Bansé devra comparaître devant la justice le 10 mai au tribunal de grande instance de Ouagadou. Le footballeur Abdoul Kader Bomba, né en France d'un père ivoirien et d'une mère sénégalaise, a finalement mis fin au suspense en optant finalement de jouer avec les Lions de la Teranga du Sénégal, les champions d'Afrique 2021, et pas avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans un entretien accordé à Record, le milieu de terrain offensif d'Amiens, prêté par le FC Nantes, a confié, je cite, « La Côte d'Ivoire est mon pays paternel. Je l'aime énormément car mon papa est ressortissant ivoirien. C'est la même chose pour le Sénégal, d'où est originaire ma maman. Tous les membres de la famille maternelle, certains dirigeants, dont mon représentant et conseiller Abdouaziz Diane, me poussent à choisir le Sénégal. » Le joueur de 28 ans a indiqué que son agent fait les démarches pour qu'il rencontre Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions. Pour terminer, le joueur suisse de tennis professionnel Roger Federer, qui n'a plus joué en compétition depuis Wimbledon 2021 et qui fêtera ses 41 ans cet été, a confirmé sa participation au tournoi de Bâle fin octobre, ont annoncé les organisateurs mardi. Impatient de rejouer à la maison, a commenté le Suisse aux 20 trophées en grand chelem sur les réseaux sociaux dans la foulée. Federer sera aussi à l'Arab Cup à Londres du 23 au 25 septembre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réunion d'experts internationaux au Cameroun sur les solutions aux déplacements forcés dans la crise en République centrafricaine. Une situation qui affecte notamment ses pays voisins, la RDC, le Congo, le Tchad, le Soudan et le Soudan du Sud. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
La rencontre d'experts est une initiative conjointe du gouvernement camerounais et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la crise centrafricaine a provoqué le déplacement forcé de près de 1,4 million de personnes, soit près du tiers de la population de ce pays.
L'appui qu'on donne aux déplacés de l'Afrique centrafricaine ne suffit pas.
Millicent Mutuli, directrice du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du HCR.
Il faut vraiment un effort additionnel, pas seulement des pays hôtes, mais aussi de la communauté internationale. On sait déjà qu'il y a des solutions qui, pour ceux qui veulent rentrer au pays, mais il faut d'autres solutions pour ceux qui opteraient de rester dans les communautés hôtes.
Les experts réunis à Yaoundé doivent proposer des solutions durables pour une inclusion socio-économique des réfugiés centrafricains dans les pays hôtes ou celle de leur retour volontaire dans leur pays. À ce propos, l'Union africaine préconise deux solutions. Minata Soumoussa Sematé, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine.
La mise en œuvre du pacte mondial sur les réfugiés par les États et les autres parties prenantes est plus que d'actualité. Le partage des charges et des responsabilités est une priorité dans un esprit de solidarité et de coopération internationale.
Le nombre de déplacés forcés de la crise centrafricaine est estimé à plus de 345 000 âmes au Cameroun, selon le ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tanganyika. La majorité vit au sein des communautés d'accueil. Kildadi Takieke Boukar, gouverneur de la région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, où l'on trouve deux camps de réfugiés centrafricains.
Ces réfugiés, en retour, doivent respecter les mesures prises par le gouvernement camerounais, notamment cette cohabitation pacifique, le partage des espaces de pâturage avec les populations autres, devrait se faire de manière harmonieuse.
Ces six dernières années, le gouvernement du Cameroun affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA au profit des réfugiés centrafricains. Le jeune Bélan Bella, ministre camerounais des Relations extérieures.
Il s'agit donc pour nous, et ceci est avéré nécessaire, non seulement pour l'ensemble des pays d'accueil du CFA déplacé, mais également pour les acteurs internationaux impliqués, d'établir sur un cadre communautaire régional de chercher des solutions durables afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Des experts dans le domaine agricole estiment que les organes habilités devraient consacrer davantage d'efforts à la recherche et à la technologie pour augmenter la productivité agricole en Afrique. Ils indiquent que si rien n'est fait, le continent aura de la peine à nourrir sa population qui va doubler à l'horizon 2050. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Nachichimwe.
Le continent africain compte actuellement une population de 1,2 milliard d'habitants. C'est le continent le plus pauvre et également celui qui présente un grand nombre de personnes qui utilisent des procédés archaïques dans l'agriculture, alors que la population qui vaque à des activités en rapport avec l'agriculture est d'environ 60%. Le directeur général de la Fondation africaine des technologies agricoles, le docteur Canisius Kanangire indique qu'il faut déjà réfléchir sur comment se servir de la technologie et de la recherche pour avoir une production agricole suffisante.
On est en train d'appeler les décideurs de considérer que ces produits ne sont pas nouveaux. Nous disons que c'est des technologies modernes. Mais ce n'est pas moderne sur le plan de l'univers, parce que nous savons que ces technologies ont commencé à être utilisées il y a à peu près 30 ans. Et ailleurs, on est en train de bénéficier de leur utilisation.
La production agricole en Afrique est très faible par rapport à d'autres continents. Le directeur de l'Office de recherche au Burkina Faso, le docteur Edgar Traoré, revient sur ce que l'Afrique doit faire pour atteindre une production agricole satisfaisante.
Il se trouve que quelquefois, on met à disposition de nos producteurs des technologies telles que des semences de variétés améliorées qui ont un potentiel de rendement suffisamment intéressant, qui peuvent aller, par exemple, pour le riz, domaine que je connais bien. Nous avons des potentiels de rendement qui peuvent atteindre 8 tonnes à l'hectare. Et on est surpris de voir que dans les champs de nos producteurs, ils sont autour de 2 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'il y a un gap de production à fermer. Ce gap de production à remplir est dû à plusieurs contraintes émergentes qui sont liées quelquefois, le plus souvent, au changement climatique.
Le Rwanda abrite depuis ce mardi à Kigali une conférence internationale de 3 jours qui rassemble des experts et des chercheurs en vue de trouver des solutions aux défis qu'on observe encore dans le domaine de la recherche et l'impact que cela présente sur la production agricole. Cette conférence se tient au moment où les accords de Malabo prévoyant que chaque pays africain signataire doit allouer au moins 10% de son budget national à l'agriculture et 1% à la recherche tardent à se concrétiser. Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a réalisé cet objectif, alors que celui de l'Afrique est d'éradiquer définitivement la famine en 2025. Jean Damascène Manichimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
L'invasion russe de l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de blé du monde, a entraîné une flambée des prix du pain dans des pays importateurs comme le Zimbabwe. L'association des meuniers du Zimbabwe a mis en garde contre d'éventuelles pénuries de pain dans le pays après que l'Ukraine a été contrainte de suspendre ses exportations. De Harare, le reportage de Columbus Mavunga, le récit est de Lionel Gahima.
Christine Kayumba est une mère de famille à Harare. Elle a le cœur brisé par la hausse des prix. Elle ne peut même pas se permettre d'acheter du pain pour ses 4 enfants avec son salaire de moins de $250 par mois, car une baguette de pain coûte maintenant plus de $2. Elle est professeure d'anglais dans un lycée. Elle affirme qu'elle est obligée de préparer une bouillie légère et fade 3 fois par jour pour sa progéniture et qu'elle sert rarement du riz, car c'est aussi très cher.
Cette augmentation du prix du pain m'a réduit à zéro, mon frère. Je n'ai pas l'impression d'être toujours la figure maternelle, le gagne-pain de ma famille, parce que je ne parviens pas à subvenir à leurs besoins. Chaque matin, ils se réveillent en pleurant pour avoir du porridge, pleurant pour du pain. Vous voyez, le pain, c'est quelque chose pour les enfants. Ils en veulent. Même la porte d'à côté, quand ils les voient en train de boire du thé, ils veulent aller manger là-bas. Donc ce n'est pas bien d'être un professionnel et vos enfants vont se nourrir ailleurs.
Tafadzwa Musarara est le président de l'Association des mineurs du Zimbabwe qui importe des céréales. Il attribue la hausse de prix au conflit russo-ukrainien.
Soudain, nous nous sommes réveillés sans cet approvisionnement. C'est la crise qui est là. L'inflation sur le prix du pain, l'augmentation du prix du pain est un facteur importé. Maintenant, nous nous efforçons de voir comment nous pouvons l'obtenir d'autres pays. En Australie, il y a le problème des inondations qui ont affecté leur agriculture. Nous nous efforçons maintenant d'obtenir du blé du Canada et d'autres pays.
Il ajoute que du blé destiné au Zimbabwe était bloqué depuis 2 semaines dans la ville ukrainienne de Mariupol, assiégée par les soldats russes. Andrew Matibiri est le PDG de la Société agricole du Zimbabwe, un groupe chargé de promouvoir le développement agricole dans le pays. Il voit une opportunité dans les pénuries de blé actuelles.
En tant que Zimbabwe, le moment est venu pour nos agriculteurs de produire davantage, pour que le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble, main dans la main, pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la production de blé. Et Dieu merci, nous avons eu des pluies tardives qui ont aidé à préparer le terrain. Donc, dans l'ensemble, l'avenir de la production de blé dans ce pays est bon. Nous avons montrer que nous pouvions produire suffisamment pour nos besoins et produire encore plus pour pouvoir exporter vers les pays voisins et d'autres qui ont besoin de blé.
Ce serait certainement une bonne nouvelle pour les gens comme Madame Kayumba qui ne peuvent plus s'offrir le luxe d'acheter du pain devenu vraiment trop cher et hors de portée.
Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a racheté pour 44 milliards de dollars le réseau social Twitter, fréquenté par des millions d'utilisateurs et des dirigeants politiques dans le monde entier. Il s'agit d'un moment décisif pour cette entreprise lancée il y a 16 ans et qui s'est imposée comme l'une des places publiques les plus influentes du monde. Pour en savoir davantage sur les enjeux de cette nouvelle acquisition pour les milliardaires d'origine sud-africaine, Jean-Roger Bion a joint à Douala au Cameroun Paul Joël Kamchang, secrétaire exécutif de Adici Cameroun, spécialiste des plateformes de communication.
Au-delà des enjeux commerciaux, on a également des enjeux politiques parce que désormais ces différentes plateformes-là se comportent un peu comme des États et parfois les vrais États, selon les statuts des Nations Unies, se méfient des activités qui s'y passent. Et vous savez que de plus en plus, c'est par ces plateformes-là à partir desquelles dans le monde, les citoyens parviennent à contrôler les politiques publiques et même à renverser des politiciens. Et donc il va sans dire qu'il y a certains aspects commerciaux qui apparaît à première vue, mais également il y a plusieurs enjeux, même parfois géostratégiques, derrière ces différentes plateformes.
Elon Musk met en avant des innovations telles que la promotion de la culture, de la liberté d'expression. Qu'est-ce que cela veut dire pour le contexte africain et global ensuite?
Oui, en fait, il ne va faire que renforcer les missions premières de cette plateforme. Vous savez que à l'origine, en créant ces différentes plateformes, c'était davantage pour promouvoir les libertés d'expression, les libertés d'association et même les libertés d'information ou d'accès à l'information avec notamment le droit de savoir. Et en Afrique, vous savez que de plus en plus, les libertés publiques sont menacées, notamment dans des espaces civiques. Et donc, de plus en plus, les citoyens ont tendance à aller s'exprimer sur la toile. C'est pour ça qu'on remarque, par exemple, une avalanche d'expressions en ligne promues par les citoyens qui souhaitent bien se faire entendre. Et de plus en plus, vous allez également constater que ces différentes plateformes-là subissent des surveillances, parfois fantômes, de la part des différents gouvernements qui davantage ont des services spécialisés qui surveillent et traquent des citoyens. Et donc, je crois que c'est dans cette logique-là qu'ils devraient s'inscrire. Mais il faut autant dit que ça ne reste qu'un vœu, ça ne reste qu'un idéal, ce d'autant plus que les États ne se laissent plus faire parce que de plus en plus, ils contrôlent les libertés des citoyens sur cette plateforme-là pour mieux asseoir leur pouvoir et contrôler justement la cité.
Alors Elon Musk est sud-africain, donc africain. Est-ce que l'expansion de son empire à travers ce réseau social pourrait avoir des bénéfices pour le continent?
D'un point de vue commercial, pas du tout, je crois pas, parce que l'Afrique ne fait même pas partie des meilleurs chiffres d'affaires de ces différentes plateformes. Et plusieurs études ont prouvé justement que le taux de pénétration en Afrique reste l'un des plus bas dans le monde, à cause par exemple des sérieux soucis de connectivité. Donc il ne devrait pas seulement présenter cette plateforme comme étant la plateforme qui vient libérer les Africains, mais également il y a des vrais problèmes et des vrais enjeux auxquels il faudrait s'attaquer, tels que le pouvoir d'achat, tels que la question de la pénétration d'Internet en Afrique, tels que cette capacité des citoyens à s'acheter du crédit ou des devises pour aller justement surfer.
Eh bien, c'était Paul Joël Kamchang, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement intégré et la solidarité interactive. C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia et Mohamed Houmfa. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnou et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.